13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, nucléaire ralenti, gaz incertain, les appels à faire des économies d'énergie se multiplient. Chez GRDF, le réseau de gaz, on prépare un hiver prochain sans fourniture russe. Les gros industriels subiraient des délestages. Autre effet de la guerre, le prix du blé en hausse. Les conséquences de ce conflit sur l'agriculture. Toutes vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. À 13h30, nous serons avec le spécialiste Bruno Parmentier. L'oligarque russe Roman Abramovitch a-t-il été victime d'une tentative d'empoisonnement? Nous irons à Londres. Il est parmi ceux qui jouent les intermédiaires des négociations entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. Près de Kiev, les Ukrainiens affirment avoir repris une ville, celle d'Irpine. Nos envoyés spéciaux ont pu y entrer. Dernière minute, Décathlon, le groupe français, suspend ses activités en Russie. La campagne à 12 jours du premier tour. Valérie Pécresse retrouve le terrain après une période d'isolement Covid. Emmanuel Macron confronté aux questions sur l'utilisation massive des cabinets privés sous son quinquennat. Anne Hidalgo déplore des débats où l'on n'entend qu'excès et injures. La campagne dans le 13-14, c'est aussi le feuilleton. 5 Français dans la campagne, aujourd'hui Simon, de plus en plus éloigné de la politique.
Du coup, je n'irai pas voter. Ne pas aller voter, c'est militer contre un système que je comprends pas.
Rendez-vous à 13h50 pour le feuilleton. Dans l'actualité encore, ces Français qui remettent le masque. 130 000 contaminations par jour en moyenne. Les barrages avant la Coupe du Monde de football. Ronaldo et Ibrahimovic et quelques autres jouent leur place. Et dans C'est une chanson, Bourvil, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
24 centrales nucléaires à l'arrêt sur 56, un approvisionnement en gaz aléatoire et particulièrement cher, le dérèglement climatique, la question des économies d'énergie à faire maintenant et dans les mois à venir se pose un peu plus chaque jour. Deux personnalités appellent chacun d'entre nous depuis hier à faire d'ores et déjà des économies de gaz et d'électricité, le président de la commission de régulation de l'énergie et puis Thomas Giraudeau, la directrice générale de Gaz Réseau Distribution de France, le réseau de gaz.
Oui, dans une interview publiée dans le journal Les Échos aujourd'hui, Laurence Poirier-Dietz donne un exemple. Si tous les particuliers clients de GRDF réduisent la température d'un degré, baissent le chauffage la nuit et quand ils ne sont pas chez eux, alors cela diminuerait de 10% la consommation de gaz en France. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, si Moscou venait à couper le robinet gazier, alors cela ne suffirait pas. Le risque de pénurie est réel, pas tout de suite, mais l'hiver prochain, quand la demande sera au plus haut. Alors GRDF est en train de sonder ses clients les plus énergivores, les grands industriels, pour savoir qui pourrait subir des coupures de gaz. Et ils ne sont pas très nombreux. D'après Nicolas de Warren, il préside l'UNIDEN, l'Union des industries les plus énergivores.
Quelques sites industriels pourraient effectivement ralentir leur consommation, voire la suspendre. Mais il y a des activités d'abord industrielles qui ne peuvent pas être arrêtées. Je prends l'exemple d'un four verrier, je prends l'exemple d'une raffinerie ou de la pétrochimie. Par ailleurs, les possibilités de reconversion sont extrêmement limitées. La chaîne d'approvisionnement fuel a quasiment totalement disparu dans les entreprises qui se sont converties.
Impossible de revenir au fioul pour beaucoup d'industries consommatrices de gaz. Les marges de manœuvre sont donc faibles de ce côté-là. Voilà pourquoi la directrice générale de GRDF évoque d'autres solutions à plus long terme, comme pousser les agriculteurs à produire plus de biogaz, le biométhane. En ce moment, il coûte moins cher sur les marchés que le gaz fossile venant de l'étranger.
Et pour les semaines à venir, pas d'inquiétude sur la fourniture de gaz, dit la directrice générale de GRDF. La semaine dernière, les États-Unis se sont dit prêts à livrer à l'Europe une partie du gaz qu'elle n'achèterait plus à la Russie, pour en être moins dépendante. 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié issu de la fracturation hydraulique aux États-Unis, gaz de schiste. Cela veut dire que cette guerre pose un autre dilemme que résume et auquel répond le candidat communiste Fabien Roussel contre le boycott de la Russie.
Vous voyez un petit peu les contradictions dans lesquelles nous nous sommes mis tout seuls. Le gaz de schiste, nous l'avons interdit parce que c'est hyper polluant. Eh bien aujourd'hui, on est en train de dire, ben comme on est en guerre contre la Russie, on va limiter nos importations de gaz de Russie, mais on va faire venir du gaz pourri des États-Unis. Donc... Je dis que nous ne sommes pas obligés aujourd'hui de nous priver du gaz russe. Nous en dépendons que de 17%. Il faut à chaque fois que l'on prend de telles mesures d'embargo contre l'économie russe, mesurer les responsabilités, les conséquences pour les peuples d'Europe et pour les peuples français. Donc, c'est bien pour ça que je suis le seul à gauche à demander d'investir massivement dans l'éolien, dans le solaire et dans le nucléaire, et tout ça dans un grand service public pour contrôler les prix, la distribution et retrouver notre indépendance, y compris vis-à-vis du gaz russe comme du gaz de schiste Améris.
Fabien Roussel, ce matin sur France Info, les propositions des candidats en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique ont été étudiées par l'association Shift Project, spécialisée dans la transition énergétique. Verdict, aucun des 12 programmes ne permettrait de respecter les engagements de l'accord de Paris. Il faudrait pour cela réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Les plus proches en sont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Les plus loin, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Et pardon d'ajouter une couche de mauvaises nouvelles, mais on en disait un mot hier dans ce journal, le printemps commence à peine et la crainte de sécheresse dans les mois à venir est déjà forte. Il n'a pas assez plu cet hiver, les nappes phréatiques n'ont pas fait le plein. Situation inquiétante en particulier dans les Pyrénées-Orientales, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Poitou-Charentes. Vous allez voir qu'il y a un lien avec l'énergie. Cette inquiétude, l'hydrologue Emma Aziza ne fait rien pour l'apaiser. Au contraire, elle répond à Aurélien Accard.
C'est anormal, mais cette anormalité devient la normalité. Des territoires où on a actuellement en France un cinquième de tous nos cours d'eau qui ont 40% de débit en moins que la normale. On peut aller jusqu'à 75% de déficit de pluie, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Donc, toutes ces masses d'eau qui sont censées tenir jusqu'à l'été, si dès le mois de mars, elles sont déjà défaillantes, ça pose problème.
Donc, il y a une grosse inquiétude peut-être déjà sur l'été qui arrive ?
Il y a une grosse inquiétude très claire, très marquée, parce que on voit très bien que ces déficits s'accentuent d'année en année. Je crois qu'on n'a pas compris ce qui arrive devant nous, et on n'a surtout pas compris ce que ça signifie le manque d'eau, parce qu'on n'est absolument pas habitué à ne pas avoir, nous, de l'eau dans notre robinet. Est-ce que ça signifie derrière ? C'est une question d'énergie, puisque la plupart des sources énergétiques se nourrissent d'alimentation en eau. Donc on voit très bien que ça pose la question énergétique, ça pose la question alimentaire. Et si on ne met pas ça sur la table, c'est nous qui arrivons juste derrière.
L'hydrologue Emma Aziza sur France Info ce matin. Au plan économique, l'héritage des mois passés, Covid, campagne électorale et guerre, c'est aussi la dette. L'INSEE a publié ce matin son premier bilan avant-guerre, bilan de l'année 2021, marqué par une forte croissance, 7%. Oui, les chiffres sont marquants, mais Delphine Simon, les comptes publics ont mieux résisté que prévu à la crise sanitaire.
L'État limite la casse par rapport à ce qu'il a prévu l'été dernier en pleine vague Covid. Le déficit public atteint 6,5% contre 9% attendu. Quant à l'endettement, il frôle 113%, c'est 2 points de moins que prévu. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, le moteur de la croissance tourne plus vite en France que chez nos voisins. Plus de croissance, c'est-à-dire plus d'emplois, qui ramène plus de recettes fiscales et de cotisations sociales dans les caisses de l'État. Si les comptes publics ont meilleure mine, c'est aussi grâce au plan de relance européen, de fortes recettes qui font que les prélèvements obligatoires, eux, ne baissent pas, contrairement à ce qu'espérait le gouvernement qui en a fait l'un des objectifs du quinquennat. Autre bémol, les dépenses publiques augmentent fortement du fait des hausses de salaire à l'hôpital et du quoi qu'il en coûte. Si la Banque Centrale Européenne relève ses taux d'intérêt plus tôt que prévu, l'État pourrait avoir du mal à financer à bon compte cet endettement massif.
Question de la dette peu présente dans la campagne électorale. La campagne que Valérie Pécresse reprend au contact aujourd'hui. Sa période d'isolement Covid est terminée. La candidate de droite est à Marcq-en-Barœul dans le Nord pour parler baisse d'impôts et pouvoir d'achat.
Oui, absolument. Sur le thème, évidemment, aujourd'hui, du pouvoir d'achat, du travail. Moi, je milite aujourd'hui pour un vrai bouquet de pouvoir d'achat. Je pense que je suis la candidate du pouvoir d'achat, la seule qui finance vraiment ces mesures et qui ne fait pas de promesses démagogiques aux Français en augmentant les déficits et la dette. Donc, ne croyez pas les démagogues, croyez la vraie candidate du pouvoir d'achat, celle qui travaille, justement, en lien avec les entreprises pour augmenter les salaires.
Propos recueillis par Anne Souhaitement. Emmanuel Macron était en Bourgogne, lui, hier, et le président candidat depuis quelques jours doit affronter un reproche qu'il n'avait peut-être pas anticipé. L'affaire McKinsey, le gouvernement accusé d'avoir eu recours de manière excessive aux services de cabinets de conseil privés. Ce type de contrat a plus que doublé entre 2018 et 2021. Selon un rapport du Sénat la semaine dernière, plus d'un milliard d'euros dépensés pour la seule année 2021. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Emmanuel Macron fait désormais régulièrement face à des questions à ce sujet.
Et hier encore à Dijon, effectivement, pour ce premier vrai déplacement de campagne qu'il voulait axer sur la jeunesse et l'éducation.
Je ne vais pas, moi, justifier de chaque contrat. Je ne les connais pas, c'est pas moi qui les ai passés.
Il a du mal à justifier, mais, en tout cas, du contrat lui-même.
Non, mais il faut poser la question au ministre qui l'a passé ou à son administration. faut ranger quand même toutes les cases, là, sinon on va dire tout et n'importe quoi.
Mais cabinets qui décident à la place des ministres.
Mais personne ne décide à la place.
Voilà, 25 minutes de questions-réponses avec les journalistes, 6 minutes consacrées à McKinsey. Emmanuel Macron a beau tenir sa ligne, les règles des marchés publics ont été respectées. Il est normal d'aller chercher des compétences que l'on n'a pas dans l'administration, en particulier sur la cybersécurité. Tous ses adversaires ont attrapé le sujet au vol. Gabji, mainmise du privé sur les politiques publiques, président des riches et des entreprises, des angles d'attaque, négligé par la Macronie, reconnaît un ministre. On a pensé que cela ne prendrait pas, et il cite au passage le scandale des EHPAD, des sujets formidables, dit-il, pour nos adversaires et les réseaux sociaux, on aurait dû y répondre plus vite. Vigilance donc au QG de campagne, mais ce ne sont pas les costumes de Fillon non plus, tente de se rassurer un cadre, certes, mais un vrai caillou dans la chaussure du président candidat.
Les arguments de campagne des candidats, quelle serait la première mesure que mettrait en place Nicolas Dupont-Aignan s'il était élu à l'Élysée? Son porte-parole répond ce matin sur CNews, un 13e mois pour tous les Français qui gagnent jusqu'à 3 fois le SMIC. Comment financer cela? La lutte contre les fraudes sociales, répond le porte-parole du candidat Dupont-Aignan. Et parmi les questions clés à 12 jours du premier tour, celle de l'abstention. Si l'INSEE précisait la semaine dernière que 95% des personnes en âge de voter sont inscrites cette année sur les listes électorales, quelle proportion se déplacera? Le record d'abstention de 2002, l'année où Jean-Marie Le Pen avait accédé au second tour, sera-t-il battu? Pour encourager à aller voter, une initiative de la fondation du camp des 1000. Ce camp, à Aix-en-Provence, était un lieu d'internement et déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis un peu plus d'un mois, à bord d'un bus dit d'alerte républicaine et démocratique, des représentants de la fondation sillonnent la France et présentent une exposition itinérante sur les génocides au XXe siècle. Alors quel lien avec la présidentielle? Eh bien, ils estiment que les temps sont graves et que ces temps appellent chacun d'entre nous à aller voter les 10 et 24 avril. Reportage Mélanie Cusin.
C'est le même dispositif dans chaque ville. Le bus itinérant se gare sur une place et les passants marquent une pause, interloqués par le slogan écrit en grandes lettres noires et rouges. L'histoire montre jusqu'où mènent les extrêmes.
Je partage le même constat. L'histoire a démontré à plusieurs reprises jusqu'où effectivement les extrêmes pouvaient nous mener, encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
À l'intérieur du bus, un film est projeté sur les différents génocides du XXe siècle, la Shoah, le Rwanda, l'Arménie. Alain Chouraki est le président de la fondation du camp des 1000.
Comment ces génocides ont pu intervenir? Comment la démocratie a pu s'effondrer avant de telles horreurs? Qu'il s'agit d'apporter les analyses, les clés de compréhension et d'inciter par conséquent à voter, parce que voter est pour nous la première forme de résistance à des engrenages terribles pour une société qui ont déjà été enclenchés dans notre pays.
Un éclairage historique qui produit un déclic chez Marie Land, étudiante en sciences sociales à la Sorbonne.
Au début, je ne voulais pas trop voter. J'ai un peu compris tout ce qui se passait dans les camps, parce que je n'étais pas vraiment très calée sur le sujet. Et j'ai compris aussi que y a beaucoup de personnes qui ont souffert. Ça a rapport vraiment à ce qui se passe en Ukraine. Et voter, en fait, c'est important parce que, un peu, les jeunes, nous sommes la relève de demain.
Marie Land, très touchée, a même décidé de distribuer des tracts sur l'exposition avant de retourner en cours.
Et ce bus fait étape aujourd'hui à Orléans. Parole de candidat, Anne Hidalgo était ce matin l'invitée de France Inter. Maxence Lambrec, la maire de Paris, déplore la tonalité qu'a pris la campagne au fil des semaines.
Dans cette campagne, on aura surtout entendu le bruit, la fureur, les excès, les injures, car certains ont transformé le débat politique en ce débat calamiteux, estime Anne Hidalgo. L'injure occupe l'espace sur les idées alors qu'il s'agit de l'avenir de la France. Ça ne l'empêche pas de qualifier un peu plus tard Éric Zemmour de guignol, incapable d'assumer une quelconque responsabilité, y compris celle d'arrêter ce type de propos, référence au Macron assassin scandé dimanche par son public. Interpellée une nouvelle fois par nos auditeurs sur l'absence d'union à gauche, Anne Hidalgo garde la même parade. J'avais proposé en décembre une primaire à Yannick Jadot notamment. Elle promet, pour les législatives en juin, des candidatures communes, insiste énormément sur la dimension écologique de son projet, la fin du nucléaire en France en 2050, au plus tard 2060. Pas question pour elle de toucher à l'âge légal de départ à la retraite, toujours 62 ans, pestant contre un Emmanuel Macron qui ne marche pas sur deux jambes, mais saute, dit-elle, à cloche-pied sur son pied droit en proposant la retraite à 65 ans. Il fait, je cite, le grand dépassement de la droite par la droite.
Et l'après-présidentielle et même législative se prépare déjà au PS. l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis annonce aujourd'hui le lancement d'un pôle social-démocrate pour rassembler à gauche. Le pronostic vital de la gauche est engagé, dit-il. Dans l'actualité encore, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, entendu ce matin par la Cour de justice de la République. C'est l'enquête sur des soupçons de conflit d'intérêts qui pèsent sur le garde des Sceaux. Ni lui, ni ses avocats n'ont fait de déclaration à la sortie.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
34e jour de guerre en Ukraine. Parmi les faits marquants, le déploiement de mercenaires du groupe privé Wagner côté russe autour de Kharkiv. La source est le ministère britannique de la Défense. Le siège de Mariupol qui continue. Ces attaques russes contre la ville sont un crime contre l'humanité, dénonce le président ukrainien Zelensky. 34e jour de guerre donc, et non seulement les Russes ne progressent plus, mais est-ce un redéploiement comme annoncé par le Kremlin? En tout cas, il semble reculer en certains points. Les Ukrainiens affirment ainsi avoir repris la ville d'Irpin, au nord de Kiev. Est-ce réellement le cas? En tout cas, notre équipe d'envoyés spéciaux Gilles Gallinaro, Étienne Monin a pu entrer dans la ville.
Au pied des immeubles, depuis l'une des bases arrières qui sert à un commando ukrainien, on voit partir une à une les ambulances qui s'arrêtent à l'entrée de la ville, devant le pont qui est détruit, pour exfiltrer les blessés et les civils.
Je vais au pont et je récupère soit les
civils. Nicolas Bourbouze est l'un de ces ambulanciers. Il est français, il a fondé l'association Maison du Sauvetage. Il dit que la pression de l'artillerie reste très forte sur Irpin.
Ça tire des obus sur la route. Comme hier, par exemple, il y a eu un gros tir d'artillerie avec du gros calibre. On a été soufflé, même là où on était, quoi. Ils visent tout le monde. Il n'y a pas de, parce que c'est une ambulance, qu'on ne risque pas de se faire tirer dessus.
Arena Traffic, Polo, Volkswagen Polo.
Derrière le pont, ce sont les volontaires ukrainiens qui conduisent les voitures pour extraire les derniers habitants retranchés. André explique que malgré l'avancée ukrainienne, le danger est permanent.
C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de mines, vous savez. Mais on doit récupérer les gens qui sont sous terre. Il y a des explosions partout. Le mieux pour les gens d'Irpin aujourd'hui, si possible, c'est de partir.
Un soldat ukrainien dit aussi qu'il soupçonne les Russes de se préparer pour essayer d'avancer. Ils sont pour l'instant en position défensive, mais pour lui, la situation reste instable. Kiev, Gilles Gallinaro, Étienne Monin, France Inter.
Sur le terrain diplomatique, c'est à Istanbul qu'ont repris ce matin des pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes. Elles se tiennent dans une résidence qui donne sur le Bosphore, le détroit entre Europe et Asie, en Turquie. Deux médiateurs notables participent à ces discussions. Le président turc Erdogan, il appelle les deux parties à mettre un terme à la tragédie de la guerre. Il est possible, dit-il, de parvenir à une solution. Et puis le milliardaire russe Roman Abramovitch, propriétaire du club de foot londonien de Chelsea, qu'il a mis en vente depuis le début de la guerre. Au moins deux photos, source turque, source russe, attestent de sa présence à ces négociations. Et arrêtons-nous sur le cas de cet homme, c'est l'une des figures des oligarques russes en Europe de l'Ouest. Il est intéressant, Abramovitch, à bien des égards. D'abord, a-t-on voulu lui faire payer son rôle de médiateur? A-t-il été victime d'une tentative d'empoisonnement? Le quotidien américain The Wall Street Journal sème le doute en affirmant que, comme deux négociateurs ukrainiens, il a développé d'étranges symptômes, les yeux qui piquent, la peau qui pèle. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
En direct de Londres, dont Abramovitch est une des figures, que sait-on, Richard, de cette affaire?
Que ça se passe juste après des discussions à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Roman Abramovitch a, vous l'avez dit, la peau qui pèle, les yeux qui brûlent. Les deux négociateurs ukrainiens qui rentrent à Kiev avec lui après ces discussions souffrent des mêmes symptômes. Le lendemain, le 3 mars, le milliardaire et un parlementaire qui l'accompagnaient perdent même la vue pendant quelques heures. Ils partent se faire soigner en Turquie. Les inquiétants symptômes finissent par disparaître. Ces informations proviennent du Wall Street Journal, mais aussi du média d'investigation Bellingcat et de la BBC. La Russie, qui a régulièrement utilisé du poison ces dernières années contre ses opposants, notamment ici sur le sol anglais, est évidemment soupçonnée. Mais cette nuit, un responsable américain cité par Reuters a émis des doutes sur ces empoisonnements, parlant plutôt de facteurs environnementaux. Aucune confirmation officielle de cette histoire et Moscou vient d'affirmer, je cite, « ces informations ne correspondent pas à la réalité, il s'agit d'une guerre de l'information ».
Alors reste cette question, Richard Place. Abramovitch est donc à Istanbul pour les négociations entre Ukrainiens et Russes. Quel rôle ce mania du pétrole et de la sidérurgie joue-t-il comme facilitateur ?
Alors, il a été sollicité dès le début du conflit par l'entourage du président ukrainien. Abramovitch a des origines ukrainiennes et les faveurs du Kremlin, ce qui en fait donc un homme utile dans ces discussions. Et puis, il veut aussi se refaire une virginité. Sa proximité avec Vladimir Poutine lui a beaucoup été reprochée ces dernières semaines, au point qu'il se retrouve sur la liste noire du gouvernement britannique. Il joue un drôle de jeu, marchant sur un fil, pendant que sa fille, par exemple, condamne l'invasion russe sur les réseaux sociaux. Lui reste silencieux. Son calcul paraît évident. S'il parvenait à faciliter un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, il pourrait peut-être retrouver une respectabilité sur la scène internationale et une partie de sa fortune actuellement gelée.
Richard Place, en direct de Londres pour France Inter. L'effet marquant à propos de cette guerre, c'est aussi un entretien Macron-Poutine, 16h30. Il sera notamment question de Mariupol. Le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique en Ukraine, pour discuter de la sécurité des sites nucléaires. Et puis parmi les faits militaires, au moins 2 morts selon l'agence France-Presse dans la frappe russe sur l'administration de Mykolaïv, une des villes ukrainiennes. Et puis on l'a appris en fin de matinée, l'entreprise française Decathlon suspend ses activités en Russie. Communiqué de Decathlon qui constate que les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre son activité en Russie et donc suspend l'exploitation de ses magasins. Près de 130 000 nouveaux cas de Covid chaque jour en France. Si les spécialistes à l'hôpital ne s'inquiètent toujours pas, l'impact dans la vie quotidienne est de plus en plus important. L'association des directeurs de ressources humaines évalue l'absentéisme en entreprise à 10 à 15% en ce moment. Et le masque revient dans certaines écoles, mais aussi magasins, cinéma ou même dans la rue. Illustration à Limoges avec vous, Lise Roseveille, France Bleu Limousin, chez Monoprix.
Janine pousse son caddie dans le rayon épicerie. Le masque bien serré derrière les oreilles, elle a repris ses vieilles habitudes.
Vu le nombre de contaminations qu'il y a tous les jours, je préfère le porter en intérieur.
Garder son masque dans les magasins, c'est juste logique pour Martine. Ses mains plongées dans les salades.
La maladie n'est pas arrêtée, donc je suis prudente. Je suis peut-être anxieuse, je sais pas. Quand je suis en pleine campagne, je ne le mets pas. Quand on est dans un magasin avec de la promiscuité, on peut se transmettre ce fichu virus.
Morgane, elle, fait ses courses à toute vitesse, mais elle a quand même enfilé son masque. Comme une deuxième peau.
Finalement, autant qu'on le porte maintenant, même on le porte au travail, partout. Donc en fait, on est tellement habitué que non, c'est pas très contraignant.
À la caisse, Yves ne se découvre jamais le nez, même pas dehors. Pour lui, c'est une question de responsabilité.
Ma femme et moi, nous prenons le masque dans les supermarchés, les restaurants et tout. Je continuerai à le faire jusqu'à ce que l'épidémie soit complètement finie.
À 80 ans, Françoise reste aussi très prudente.
Moi, j'ai encore plus de risques à mon âge que vous. Donc bon, voilà, je suis obligée de faire peut-être plus attention.
Et ça la rassure de voir tous ses autres clients masqués dans les allées du supermarché.
Et en Chine, à cause du Covid, Shanghai et depuis lundi, toute la partie est de la ville est confinée. Vendredi, ce sera au tour de la partie ouest et ce confinement va encore augmenter le coût du transport de marchandises selon le géant du secteur, le Danois Maersk. Shanghai est un centre important dans ce domaine notamment. À Londres, les premières sanctions à propos du Partygate tombent. C'est fait à Downing Street et dans le quartier en pleine période de restriction. 20 premières amendes pour infraction. Scotland Yard refuse de mentionner les individus sanctionnés. À propos de Grande-Bretagne, Elisabeth II, la reine, est pour la première fois apparue en public ce matin, plusieurs mois après des soucis de santé. En France, devant la cour d'assises du Doubs, le procès de Nicolas Zepeda s'est ouvert ce matin. Ce Chilien est accusé d'avoir tué son ex-petite amie, elle-même japonaise, à Besançon en décembre 2016. Le corps n'a jamais été retrouvé, il est l'unique suspect. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno.
En direct de la cour d'assises, vu le profil et de l'accusé et de la victime, Jean-Philippe, ce procès a un caractère particulier, très international.
Ah oui, aucune affaire n'a eu l'importance de celle-ci, a précisé le président en ouverture d'audience en rapport à cette dimension de l'affaire. Pas moins de 6 interprètes sont mobilisés chaque jour ici pour traduire l'intégralité des débats en japonais et en espagnol. Ces derniers ont même été recrutés directement au Chili pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de traduction. Ce matin, un costume bleu impeccable, cravate et masque assorti, Nicolas Zepeda a décliné son identité en entrant dans le box. J'ai une licence en administration des entreprises et je suis le fondateur d'une petite société au Chili, a-t-il précisé à la cour. Et juste en face, sur le banc des parties civiles, la mère et une sœur de Narumi se tiennent serrées l'une contre l'autre, les mains croisées sur leurs genoux, sans trop regarder l'accusé. Voilà pour la forme. Sur le fond, Nicolas Zepeda semble vouloir se défendre pied à pied d'avoir assassiné son ex-petite amie. Depuis 5 ans, c'est un cauchemar, mais je tiens à dire que je ne l'ai pas tué. J'espère que ce procès va mettre la lumière dont nous avons besoin pour la retrouver. Place à 2 semaines d'audience pour faire cette lumière ici aux Assises du Bout.
Jean-Philippe Denieux en direct pour France Inter. 2 millions d'euros d'amende pour Google. Le géant du numérique est condamné par le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. Pratiques commerciales abusives contre des développeurs d'applications mobiles, applications concurrentes des siennes. Après l'Italie et ses vedettes, d'autres stars du foot se verront-elles privées de Coupe du Monde l'automne prochain au Qatar? Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
Il y a une série de matchs de barrage ce soir et quelques grands noms du foot européen en particulier jouent leur billet, Jérôme.
Ah oui, l'Italie au tapis, un autre champion d'Europe est sur la sellette. Le Portugal de Cristiano Ronaldo joue sa place contre l'imprévisible Macédoine du Nord qui a fait chuter la Squadra Azzurra justement. Cristiano Ronaldo, 37 ans, en lice pour une 5e Coupe du Monde d'affilée, mais il lui reste cette petite finale à négocier ce soir. Duel de stars aussi en Pologne avec Robert Lewandowski contre Zlatan Ibrahimovic. Un seul poursuivra l'aventure, l'attaquant polonais du Bayern de Munich, 33 ans, double meilleur joueur de la FIFA face au buteur suédois, bientôt 41 ans de retour en sélection. Lui qui déclarait il y a quelques années « Un mondial sans Zlatan n'est pas un mondial », une sémantique qui ressemble bien à Ibrahimovic avant son dernier défi.
Voilà pour l'Europe, il y a des matchs de barrage et des stars en Afrique aussi.
Et là aussi, un grand d'Afrique ne verra pas le Qatar, le Sénégal champion du continent face à l'Égypte. Sadio Mané contre Mohamed Salah, deux coéquipiers à Liverpool, mes adversaires ce soir à l'aller. C'était les Pharaons qui s'étaient imposés 1-0. Et d'ailleurs, dans cette zone Afrique, 4 pays du Grand Maghreb pourraient se qualifier. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et donc l'Égypte. 4 pays sur les 5 qui seront du voyage au Qatar.
Et puis les Bleus jouent ce soir. Mais là, c'est un match amical 21h15 à Lille face à l'Afrique du Sud. Cette question pour terminer ce journal. Et si les goûts musicaux étaient la clé de l'affinité amoureuse? Postulat d'une nouvelle application de rencontre lancée au début de l'année par un trentenaire qui travaillait dans l'immobilier avant que la crise sanitaire ne le pousse à tout plaquer pour réaliser son rêve. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Voici donc l'appli Banjo, fonctionnement simple, basique pour apprendre une chanson d'Orelsan. Expliquez-nous.
Le principe est simple, donc la musique que l'on écoute est le reflet de notre personnalité. Banjo utilise donc nos listes musicales d'écoute en ligne, histoire de s'émanciper de la dictature des photos de profil. Jonathan Luquet, le fondateur.
Et l'idée, c'est d'aller un peu à contre-courant de ce que font les autres sites de rencontre où l'essentiel est axé sur le physique. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens de matcher. Là, je dirais que c'est un peu l'inverse.
L'algorithme calcule des points d'affinité. Attention, Orelsan ou Stromae qui passent en boucle n'en rapportent pas beaucoup, au contraire d'une pépite inconnue. Et une fois la compatibilité détectée, l'approche est simple.
C'est toujours difficile de trouver les premiers mots. Là, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est tout trouvé. Effectivement, pour aborder la personne, c'est beaucoup plus simple et peut-être un peu moins agressif, intrusif, quoi.
Confirmé par Axel, passionné de musique, d'habitude réfractaire au site de rencontre.
Pour une première approche, j'ai déjà reçu « Tiens, ça aurait pu être mon choix, moi également ». Donc ça prouve que c'est quand même plus facile, tout comme ça pourrait être un point commun culinaire ou autre, mais avec la musique, moi ça me convient bien.
Alors si vous êtes curieux, Bruno, un petit coup de pouce pour vous aider à créer votre profil. 4 titres à remplir, meilleure chanson de tous les temps, chanson pour une nuit d'amour, chanson du jour et plaisir coupable. Ça
c'est plaisir coupable.
Pas meilleure chanson de tous les temps.
Je suis pas sûr, non.
Moi j'approuve en tout cas, en régie par contre ça matche pas, j'ai l'impression.
J'aurais pas dû vous parler de moi, je le savais. Merci Delphine Evenou.
Plaisir coupable, hein. On souligne. 13h28, la météo à suivre.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal? Et le droit d'avoir un travail alors? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
France Inter aime.
Encore, le nouveau film de Cédric Lapiche.
Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies.
Suite à une blessure, une danseuse classique apprend qu'elle ne pourra plus danser.
Tu as complètement laissé tomber la danse. Faut y croire, hein, faut t'accrocher.
Sa rencontre avec une compagnie de danse contemporaine va l'aider à se reconstruire. Avec Marion Barbeau, Ophée Schechter, Denis Podalydès, Muriel Robin et Pio Marmaille, encore le 30 mars au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Elodie, le temps se dégrade.
Oui, un temps instable concerne les régions de l'Ouest avec des averses parfois orageuses entre la Normandie, l'Orléanais, la région parisienne, la Champagne et la frontière belge. Sur la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, vers le Berry jusqu'à la Lorraine, là les averses sont plus éparses. Sur les Pyrénées, des averses aussi cet après-midi, de la neige dès 2000 mètres. Et puis partout ailleurs, c'est encore agréable. Malgré tout, le soleil est très voilé. Les températures baissent par l'Ouest, elles restent tout de même au-dessus des moyennes de saison. 14 degrés attendus à Dinard, 17 à Paris, à Rennes, 18 à Metz, Nevers, Bordeaux, 20 degrés à Strasbourg, Lyon et Marseille et 22 à Grenoble. Demain, des nuages, des averses, des températures proches des moyennes de saison, donc qui continuent à baisser. Et la baisse va se poursuivre les jours suivants, les gelées seront de retour et on surveillera même la neige entre jeudi et vendredi.
Elodie Calac, Météo France, c'est bien noté. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
L'Ukraine et la Russie représentent le tiers des exportations mondiales de blé. C'est un chiffre clé pour comprendre les conséquences de la guerre pour l'économie agricole et donc notre façon de manger. Mais des chiffres qui disent les risques de crise alimentaire. Notre invité en a des dizaines d'autres en tête. Par exemple, ceci, alors que la consommation de viande a explosé ces dernières décennies du fait de l'augmentation de la population et de la classe moyenne dans le monde, la production de viande demande beaucoup plus, beaucoup de céréales pour nourrir les bêtes. Un végétarien consomme 200 kilos de céréales par an, un carnivore 800 et l'immense Chine a multiplié par 8 sa consommation de viande depuis les années 60. Alors si en France, la pénurie de céréales ne semble pas à l'horizon, qu'en est-il pour un pays comme l'Égypte, par exemple? Plus de 100 millions d'habitants, premier importateur de blé au monde. C'est toutes ces données que nous allons analyser avec Bruno Parmentier aujourd'hui. Bonjour Bruno Parmentier. Ingénieur, économiste, auteur notamment de Nourrir l'humanité et d'un blog et d'une chaîne YouTube qui font référence nourrir-manger.fr. Vous êtes bien avec nous Bruno Parmentier?
Allô?
Oui, je vous entends. Vous personnellement, j'espère que vous m'entendez également. Sinon, on va passer un premier témoignage au standard, peut-être celui de Christophe. Est-ce que Christophe est avec nous au standard?
Oui, bonjour.
Bonjour Christophe, nous vous écoutons.
Oui, voilà, ma question, c'était aujourd'hui, enfin depuis en 20 ans, nos importations de nourriture ont doublé. Si on regarde la balance commerciale, elle est positive uniquement parce qu'on exporte des alcools, c'est-à-dire du vin, du champagne, du cognac, mais elle est négative puisqu'on est obligé d'importer de la nourriture. Donc la question, c'est, à un moment, le système, il bloque, hein, finalement, puisque on est en insécurité alimentaire. Puisqu'on est obligé d'apporter des aliments.
Merci voilà. Christophe. Alors, je mets votre question de côté. Est-ce que Bruno Parmentier, on a retrouvé la liaison avec Bruno Parmentier ou pas? On me fait signe que oui. Bonjour Monsieur Parmentier, pardon pour cette entrée en matière un peu chaotique. Nos importations de nourriture ont doublé. Il y a un moment où ça bloque, nous dit Christophe. Quelle réponse? Et puis on reviendra à la guerre en Ukraine.
C'est-à-dire, attendez, ça dépend de quel pays on parle.
On parle de la France là, en l'occurrence.
Produit beaucoup plus de blé qu'elle n'en mange.
Oui.
Grosso modo, la France produit 3 fois sa consommation de blé. Un tiers de notre blé, on le mange. Un tiers de notre blé, on le donne aux cochons, aux poulets. Et un tiers, on l'exporte. Donc, la France ne va pas manquer de blé. Les autres pays vont manquer de blé. En revanche, la France manque de protéines végétales. La France importe massivement du tournesol d'Ukraine et importe massivement du soja d'Amérique latine. Donc là, c'est vrai qu'on est importateur. Mais dans tous les cas de figure, comme il va y avoir pénurie à la fois de blé et d'oléagineux, les prix augmentent d'une façon considérable. Et donc, en France, il y aura des petites répercussions sur le prix du pain, un peu plus sur le prix des pâtes et des nouilles, mais il y en aura beaucoup pour le prix de l'alimentation animale. Et donc, soit les éleveurs vont arrêter, vont faire faillite, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent de côté, soit ils sont subventionnés, mais dans tous les cas de figure, la viande, le lait et les œufs vont coûter nettement plus cher, sinon il n'y en aura plus. Il faut se rendre compte que dans le prix d'un cochon, 70% c'est le prix de l'alimentation.
Oui.
Alors quand le prix de l'alimentation double, le cochon n'y arrive plus.
C'est pour ça que je citais en introduction les prix concernant la consommation de viande. Les exportations ukrainiennes et russes sont totalement gelée en ce moment ou il y en a une petite partie qui passe ?
Les exportations ukrainiennes sont totalement gelées. Mmh. Les exportations russes ont beaucoup diminué. Alors, il faut comprendre ça. Ça n'est pas pareil de produire et de vendre. Il n'y a qu'une dizaine de pays qui sont capables de produire plus de blé que ce qu'ils ne mangent. Oui. Les deux principaux producteurs de blé dans le monde, de très très loin, c'est la Chine et l'Inde. Mais la Chine et l'Inde ne vendent pas de blé. Alors que la Russie, l'Ukraine, la France, les États-Unis, le Canada produisent plus de blé que ce qu'ils consomment. Donc c'est eux qui exportent. Et la réalité, c'est que l'Ukraine plus la Russie, c'est à peu près 15% de la production de blé dans le monde, mais c'est 30 à 40% suivant les années des exportations. Et à l'inverse, il y a beaucoup de pays dans le monde qui, eux, n'arrivent pas à produire leur nourriture. Alors, à commencer, par exemple, par les pays d'Afrique du Nord.
Et ça veut dire aussi, Bruno Parmentier, que ces pays-là ont peu d'autres destinations vers lesquelles se tourner, d'autres pays vers lesquels se tourner, parce que, effectivement, le nombre de pays exportateurs de blé est très limité.
Il est très limité. Et puis, la production dépend du temps qu'il fait. Donc, il y a des années avec et des années sans. Nous, en France, la production, elle peut varier de 25% en fonction des incidents climatiques. Donc, oui. Mettons-nous en prière pour que le printemps soit pas trop pluvieux et que l'été, il n'y a pas trop de canicule.
Alors, de ce point de vue-là, une des informations de ces derniers jours, c'est l'inquiétude sécheresse d'ores et déjà en France. Ça fait peser une menace sur la production de céréales qui viendrait en plus de la menace liée à la guerre en Ukraine.
Oui. Tout le monde sait dans l'agriculture que on sait ce qu'on sème et on espère récolter. Oui. Mais entre les deux, ça dépend. Les années où il y a trop de sécheresse, on produit moins. Les années où il y a trop d'inondations, on produit moins. Les années où il y a des canicules précoces, on produit moins. Et puis, il y a un autre facteur qui est très limitant, c'est les engrais. Oui. Alors, c'est vrai qu'à terme, il faudra essayer de se passer des engrais. Mais à court terme, il faut se rendre compte que on a triplé la production de céréales dans le monde dans les 40 dernières années, sans augmenter les surfaces, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surfaces qui sont capables de produire des céréales, mais en multipliant par 9 les engrais. Or, c'est pas de chance. L'engrais essentiel, qui est l'engrais azoté, il vient du gaz, qui vient de Russie. Et sur les deux autres engrais, le phosphate, et ça vient entre autres de Biélorussie, et le potassium, pareil. Et donc, le prix des engrais flambe aussi, et donc, il faut espérer que les gens à court terme vont quand même mettre des engrais dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent avec leur blé, mais il n'est pas exclu que dans plusieurs pays producteurs du monde, les agriculteurs se disent au prix où est l'engrais, j'en mets moins. Oui. Donc ce sera aussi une production moindre. Et donc cette crise va durer pendant au moins un an et demi, jusqu'à l'été 2023.
Et elle pose...
À court terme, on ne peut pas écluser les stocks. Et puis la récolte d'Ukraine va être très faible ou nulle, parce que pendant qu'on fait la guerre, on ne fait pas l'agriculture. Et les stocks mondiaux sont très faibles. Et par exemple, j'ai la faute à pas de chance. L'année dernière, la récolte de blé en Chine a été mauvaise, donc la Chine importe. Et donc, elle concurrence de nouveau l'Égypte et l'Algérie.
Et donc, ça va être très compliqué
pour les pays qui dépendent des autres pour se nourrir.
Et on voit aussi que ça pose le dilemme qu'on évoquait tout à l'heure dans le journal pour l'énergie, produire plus, mais à quel prix écologique. Je voulais vous soumettre, Bruno Parmentier, l'exemple d'une agricultrice qu'on connaît bien dans cette émission. Elle nous avait reçu dans sa ferme d'Ille-et-Vilaine à Essé, près de Rennes. C'est Charlotte Kerglonou. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous êtes éleveuse de bovins, vous êtes passée au bio. Est-ce que ça veut dire que vous parvenez à vous passer totalement de céréales ?
Oui, j'arrive à me passer totalement de céréales, enfin ou presque, parce que j'ai quand même besoin d'un peu de paille pour la litière des animaux l'hiver. Mais c'est possible parce que je fais de la production laitière en fait. Et donc mes animaux, mes vaches sont plutôt des herbivores, et donc la nourriture principale dont elles ont besoin, c'est de l'herbe. Et comme on a une connexion entre les cultures, enfin les prairies, on peut entendre ça sous des cultures, et l'élevage, ça veut dire qu'on se passe aussi d'engrais, puisque en fait c'est nos vaches qui fertilisent les sols en fait. Et donc il y a aussi besoin, je pense, d'une vraie reconnexion entre l'élevage et les cultures pour se passer des engrais, et une déspécialisation des territoires. Tout à l'heure, l'invité l'a dit qu'on exportait quand même du blé en France. Oui. Donc ça veut dire que si on en exporte, c'est qu'il y en a suffisamment pour nourrir les animaux en France. Par contre, il y a un vrai problème, comme ça a été soulevé, sur la protéine animale.
Et pardon, vous disiez...
Moi aussi, j'arrive à me passer de soja,
oui,
parce que l'herbe, c'est un aliment complet. Et donc, il n'y a pas besoin de le compléter avec de la protéine qui vient de très loin.
Et vous disiez, juste Charlotte, vous disiez, ça passe pour moi parce que j'élève des vaches laitières. Si vous les éleviez pour leur viande, vous auriez besoin de davantage de céréales.
Peut-être, mais je connais pas suffisamment la production de vaches allaitantes, et du coup voilà. Mais il me semble que les vaches allaitantes sont aussi des herbivores et qu'elles
bien
se
sûr
nourrissent principalement d'herbes. Après, c'est une réalité. Il y a des territoires en France où c'est très dur d'avoir des choses qui poussent. Donc, mais il me semble quand même que les prairies, ça reste un bon outil, et ça a plein d'autres bons sens aussi. Mais en fait, c'est aussi voilà, c'est entre les importations et ce qu'on exporte, il y a vraiment besoin aussi de relocaliser notre agriculture et peut-être déspécialiser et produire des choses qui n'étaient pas produites avant ou en plus grande quantité.
Oui.
Il y a besoin de rééquilibrer aussi sûrement. Parce qu'on importe par exemple 49% du poulet en France, mais on exporte aussi certaines sortes de poulets. Enfin, c'est très compliqué en fait. Après, il faudrait faire une émission entière en fait pour expliquer tout ça. Mais...
Merci beaucoup, merci Charlotte. Bruno Parmentier, que dites-vous ? Cette guerre en Ukraine pose aussi la question de notre modèle agricole.
Oui, bien sûr. Cela étant, bon, cette dame, elle a suffisamment de surface pour nourrir ses vaches à l'herbe.
Oui.
On ne peut pas nourrir toutes nos vaches à l'herbe. En fait, j'ose dire, on élève beaucoup plus de ruminants que ce que nos prairies peuvent nourrir. Et donc, ben, on complète en passant la vache au maïs et au tournesol ou au soja. Donc, si on veut ne faire que des ruminants à l'herbe, il y en aura moins. Donc il y aura moins de lait, il y aura moins de viande de bœuf. Mais ce qu'elle a dit n'est pas valable pour le poulet, le cochon, le lapin, le canard, etc.
Oui.
Ceux-là,
oui,
ils mangent comme nous. Ils mangent des céréales et des légumineuses. Et donc, effectivement, nous élevons en bonne partie des animaux qui mangent des végétaux qui sont produits à 3000, 5000, 12000 kilomètres. Ça n'est pas raisonnable. À terme, bien évidemment, il faut manger moins de viande et moins de lait en France et n'élever que les animaux qu'on peut élever avec nos végétaux. Mais ça, c'est du court terme.
Mmh.
Et cette crise va probablement accélérer les choses parce qu'il y a un certain nombre d'éleveurs qui vont tout simplement arrêter. Et il y a des productions qui vont être réorganisées. Bah, par exemple, il y a des gens qui produisaient des légumes et qui, cette année, disent « bah à la place, je vais faire du blé parce que ça me rapportera plus. » Donc, on risque d'avoir des problèmes sur les légumes, etc. Donc, il y a le moyen terme qu'il faut qu'on ait une autre agriculture agroécologique et intensive.
Mmh.
Et le court terme, c'est que comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour maintenir la paix autour de la Méditerranée. Nous, il n'y a pas de problème. Il y aura du pain dans nos boulangeries, mais il y aura un problème au Maroc, il y en aura en Tunisie, il y en aura en Égypte, il y en aura au Liban, il y en aura au Yémen, il y en aura au Soudan, etc. Et donc, et y compris les gens qui font de l'urgence, les ONG ou bien le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ben, l'aide alimentaire, ben, c'est aussi, ça vient d'Ukraine et de Russie. Donc eux aussi vont avoir le plus grand mal pour acheter des céréales, pour nourrir les réfugiés. Le Programme alimentaire mondial, il nourrit 140 millions de personnes tous les jours. Eux aussi vont avoir d'énormes problèmes d'approvisionnement.
Bruno Parmentier, dernière question. Est-ce qu'au moins cette phase est rentable pour les céréaliers français ?
Oui, ben évidemment. Donc cette année, ils vont dépenser beaucoup plus en intrants,
oui,
mais évidemment, ils vont vendre leur récolte beaucoup plus cher. Donc c'est une très bonne année pour la trésorerie
céréaliers
français. Producteurs de blé de Beauce. Mais c'est une très mauvaise année pour les éleveurs de cochons et de poulets.
Merci beaucoup. Merci Bruno Parmentier d'avoir répondu à nos questions. Et pardon pour les petits soucis en début d'interview. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif consacré à une ville ukrainienne au destin particulier aujourd'hui.
Et par où passait le blé ? Balzac disait que l'Ukraine c'était la Beauce. J'ai dit Odessa.
Odessa, dans 10 minutes. Avant cela, notre feuilleton 5 Français dans la campagne aujourd'hui. Simon, il n'ira pas voter. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Une romancière à succès dans C'est une chanson aujourd'hui, Diane Ducret, qui vient de publier Le Maître et l'Océan aux éditions Flammarion.
Le Maître de l'Océan, récit du grand voyage d'un jeune orphelin chinois appelé à devenir moine taoïste. Et ce voyage le conduira jusqu'au Mont-Saint-Michel. Diane Ducret, elle, a passé sa jeunesse plus au sud, au bord de l'océan, justement à Biarritz, où elle a été élevée par ses grands-parents. Une enfance bercée par la voix d'un chanteur et acteur normand, Bourville, a même un temps côtoyé son grand-père.
Mon grand-père donc était d'un petit village du nord de la France et il connaissait Bourville qui souvent avait pas le sou au début quand il commençait à vouloir se produire et il lui offrait un repas chaud le midi et il partageait sa table de temps en temps. Et toute sa vie par la suite, mon grand-père a écouté du Bourville, un peu de Brel aussi, mais c'était vraiment Bourville. C'était Bourville et c'était les films avec Bourville et de Funès.
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus.
Et donc, c'est cette notion de camaraderie, de naïveté aussi. C'est le corneau, c'est celui qui donne sa confiance. Mon grand-père était comme ça. Bourville, pour moi, c'est cette partie de nous, qui est une partie d'enfance ou une partie de nostalgie à laquelle moi, personnellement, je ne veux pas renoncer.
Ça veut dire que quand vous entendez la voix de Bourville, c'est le visage de votre grand-père qui surgit également?
Ah, je peux pleurer. Je peux pleurer parce que, pour moi, c'est d'une très grande poésie.
Petite souris, t'as prêté la patte à ce gros matou. Il a mis sa griffe sur ton gagne-tout. Et tu déambules la bouche en virgule entre deux bistrots. Lui à la pendule, compte le magot. Petite souris, petite bergère, tu étais jolie, jolie et légère, dans la bruyère de Quimperlé. Petite souris, le ciel de Bretagne a gardé le goût de ta lèvre rose, dans la bruyère de Quimperlé. Tu étais la fille des bois et des pierres, la fleur préférée de Paul et de Pierre, dans la bruyère de Quimperlé.
Et Frédéric, cette chanson a pour titre « Dans la bruyère » de Quimperlé, on l'aura compris.
Une musique de Jeannine Bertille et des paroles de Marcel-François Saint-Martin. Ce n'est pas la plus célèbre des chansons de Bourville, non. Mais c'est vraiment l'une des préférées de Diane Ducret.
Je la trouve magnifique parce que c'est l'histoire d'une jeune fille, d'un petit village et qui va rencontrer un homme. Et cet homme va poser ses griffes sur elle, la manipuler et l'amener à Paris, puisqu'elle, elle rêve des lumières de la ville. Et puis, il va la mettre sur le trottoir, malheureusement. Alors, ça paraît absolument glauque comme ça, mais ça ne l'est pas dans la voix de Bourville. C'est absolument charmant. C'est cette ode à la fille perdue, celle qui rêvait de quelque chose d'autre. C'est le danger de quitter son petit village, de quitter l'océan. Pour la grande ville, c'est la méchanceté des hommes parfois et la violence qu'ils peuvent avoir sur les jeunes femmes. Et c'est des expériences, on va dire, que j'ai pu connaître en arrivant à Paris à 17 ans toute seule, sans que mon grand-père puisse me suivre malheureusement.
Vous parlez d'une agression.
Oui, oui, mais avec les mots de Bourville. Et donc, quelque part, ça passe beaucoup mieux.
Petite souris, t'as donné ton âme à ce gros vilain. Il a pris ta flamme dans sa grande main. Tu n'es plus qu'une ombre qui glisse et qui sombre sur le pavé gris, très gris et très sombre, du lointain Paris.
Malheureusement, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement violent qui m'a battue aussi, de manière extrêmement traumatisante, on va dire. J'ai mis de longues années à m'en remettre et cette chanson peut-être fait écho à cela, je sais pas. Mais quoi qu'il nous arrive, rien n'est définitif, le trauma n'est pas définitif. Et finalement, en mettant un peu de grâce et un peu de beauté sur même les expériences les plus dégueulasses, on peut s'en sortir pas si mal et retrouver une sorte de poésie.
On parle de toi comme d'une image, on dit que tu dois penser au village dans la bruyère.
Le propos est extrêmement moderne, finalement. On parle aujourd'hui beaucoup des violences faites aux femmes, avec une vindicte tout à fait appropriée. mais on peut en parler aussi de cette manière-là, je trouve, avec pudeur et avec tendresse.
Dans la bruyère de Quimperlé,
et on raconte tellement de choses à travers une chanson, c'est tout l'objet de cette chronique. Merci Frédéric Ier, Bourvil dans la bruyère de Quimperlé, le choix de Diane Ducré.
Dont le nouveau roman, Le Maître de l'Océan, vient de paraître chez Flammarion. Elle sera d'ailleurs en dédicace jeudi à Saint-Médard-en-Jalles, vendredi à Bordeaux et la semaine prochaine à La Baule et à Bayonne.
À demain Frédéric.
À demain.
Une semaine dans leur vie. Cette semaine, dans le feuilleton, nous retrouverons les cinq Français dans la campagne que nous suivons depuis l'automne dernier. Après l'agriculteur David, hier, plutôt du côté de Valérie Pécresse, même s'il hésite encore. Aujourd'hui, Simon, 28 ans. Il vit à Colmar. Il est volontaire à ATD Quart-Monde. Notre journaliste Simon Le Baron l'a retrouvé alors qu'il était avec une amie. Et on mesure, en les écoutant tous les deux, à quel point une partie des électeurs se sont éloignés de la politique.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien.
Bonjour.
Julie, enchantée.
Enchantée, de même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
De formation, je suis éducatrice spécialisée. Actuellement, je suis en quête de moi-même.
Alors Simon, on est à moins de 2 semaines de l'élection, là. Quel est ton état d'esprit ?
Du coup, je n'irai pas voter. Voter, c'est cautionner un système que je ne comprends pas. Donc ne pas aller voter, c'est militer contre un système que je comprends pas. Puis en même temps, ça me fera gagner un peu de temps aussi.
Même le vote blanc, qui était ton option privilégiée, tu dis que ça sert à rien, quoi, aujourd'hui.
Non. Déjà parce que, étant donné qu'il n'est pas comptabilisé, plutôt que de perdre mon temps à essayer d'expliquer au système qui ne me convient pas, je vais tout simplement arrêter.
Depuis qu'on s'est rencontré la dernière fois, il s'est passé quand même quelque chose d'extrêmement important, la guerre en Ukraine. Ça te fait pas dire que cette élection a encore plus d'importance, justement parce que on va voter pour quelqu'un qui aura à s'occuper des affaires du monde ?
Non. D'ailleurs, j'étais pas au courant. Disons que les gens avec qui je travaille, il y a eu l'attaque de l'Ukraine. J'étais pas au courant, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Enfin, ça change rien.
Alors Julie, toi, est-ce que tu iras voter le 10 avril ?
Alors, déjà ça fait un moment que j'ai pas voté. Je pense depuis les dernières présidentielles, en fait, j'ai pas voté. J'ai voté au premier tour et au deuxième, j'ai voté blanc. Et là,
pour qui tu avais voté au premier tour ?
je crois que je sais plus. Je crois que j'avais mis les Verts.
Yannick Jadot, qui était le candidat d'Europe Écologie Les Verts, s'était allié avec Benoît Hamon. Donc peut-être que tu avais voté pour Benoît Hamon ?
Non, je crois pas. Enfin bon, en tout cas, j'en suis très éloignée en fait. Hein, à ce point que vraiment, je crois que j'ai voté juste parce qu'on m'a appris à l'école que c'était bien d'aller voter. Mais en fait, je crois que la politique, moi je m'y suis éloignée parce que j'ai l'impression qu'il y a deux mondes en fait qui nous séparent. C'est un exemple très personnel hein, qui a pu m'arriver avec la CAF par exemple, où j'ai dû essayer de faire des courriers, des contestations, où je me suis même un peu énervée. Jamais on m'a proposé de rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça a un lien avec la politique, c'est-à-dire que déjà, si à ce moment-là, au niveau de cette instance-là, j'ai pas d'interlocuteur et je peux rencontrer personne, qu'est-ce que je vais aller voter pour quelqu'un qui est encore bien plus haut et que jamais je pourrais faire passer des idées Pourquoi il n'y a pas plus de référendums déjà ?
Il y a des candidats qui proposent des choses sur justement le renouveau de la démocratie, notamment Jean-Luc Mélenchon qui propose une 6e République.
C'est, encore une fois, c'est que j'aurais du mal à avoir confiance en la personne. L'homme politique, en général, par définition, je pense que ça me rebute. J'ai l'impression que ça fait ressortir un peu tous les mauvais côtés de l'homme qu'on a tous. Hein. Mais quand je les vois, je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment là pour un peuple ou est-ce qu'ils sont là pour eux, pour
une ambition.
Oui, une ambition, quelque chose de très personnel. J'ai quand même cette sensation-là.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une à vous écouter, de l'espoir, de trouver de nouveaux moyens de faire de la politique. Vous avez envie de vous impliquer, mais différemment.
Ouais, on le voit avec le féminisme, avec l'écologie. En fait, si les gens d'en bas se rendent compte que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui ferons changer les choses. Après, plutôt dans un engagement local et plus proche de nous.
Certes, peut-être on n'emploie pas des mots très complexes, mais en fait, est-ce qu'on a besoin de faire ça aujourd'hui? Ça a plus tant de sens de faire de la politique comme du théâtre, quoi.
Le feuilleton réalisation Théo Raison. Demain, nous entendrons Camille qui hésite entre Jadot et Mélenchon, mais penche plutôt pour le second. 13h54.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Plus d'un mois de guerre en Ukraine. Et parmi les grandes villes sous pression, il y a Odessa, sur les bords de la même mer Noire, la ville du cuirassé Potemkin, film sorti il y a près d'un siècle. La scène du landau descendant l'escalier d'Odessa est entrée dans l'histoire du cinéma.
Et en haut de cet escalier, filmé par Eisenstein, le front de mer est comme divisé en deux. Il y a le côté de Frédéric Pommier, Pushkin.
J'étais à Odessa, la belle. Le ciel là-bas est longtemps clair. Le commerce hisse les voiles. Il est actif et opulent. Là-bas, tout a l'air d'Europe.
Et l'autre côté, c'est le côté du duc, le duc. Sa statue se tient là, et si elle n'était dorénavant couverte par des sables, des sacs de sable, on la verrait encore veiller sur le port et le damier des rues, habillé d'une toge et couronné de laurier, le duc. C'est un Français, émigré pendant la Révolution, Richelieu, que le tsar a nommé gouverneur de la Nouvelle-Russie et qui a élevé Odessa, simple bourgade, au rang de grande cité. Près d'un siècle après la création de Saint-Pétersbourg, au nord, il a fait mûrir au sud ce fruit tardif des Lumières avec ses voies rectilignes, tracées par des architectes français, son opéra construit par un Italien, avec son port surtout. Richelieu l'avait conçu comme le point de passage du blé produit à l'intérieur de l'Ukraine et qui allait trouver ses débouchés au large, en Europe. Savez-vous à quoi songeait le père Goriot de Balzac sur son lit de mort à construire une usine de pâte à Odessa? Par sa compagne, Madame Anska, Balzac avait bien connu l'Ukraine et il comparait ses riches terres noires à la Beauce. On comprend pourquoi son confrère Pushkin insistait sur le commerce opulent avec l'Europe. Aujourd'hui, la marine russe entrave la navigation.
Odessa, ville européenne, on peut tout aussi bien parler d'Odessa comme d'une ville monde.
Oui, parce que déjà du temps de Richelieu, on y parlait 20 langues, on y pratiquait 10 cultes. Au marché, les Ukrainiens vendaient au tonneau leur vin local, huileux et sombre, les Ouzbeks du jus de grenade pressé et les Turcs des oranges.
C'est une ville insaisissable pour les nationalismes.
Et qui a accueilli d'ailleurs nombre de nationalistes en exil. Pour ne prendre qu'un exemple, au XIXe siècle, le Polonais Mickiewicz, qui devint ensuite professeur au Collège de France à Paris. Mais Odessa n'est guère nationaliste pour elle-même. Pratiquant vis-à-vis des étrangers l'ironie à haute dose, elle est plutôt de la nation des rieurs. Elle voudrait croire, par exemple, qu'en regardant bien dans les yeux les Russes qui vont peut-être surgir, eh ben ceux-ci vont fondre. Alors, le face-à-face ukrainien-russe a quand même connu des moments violents. Au moment de la crise de 2014, les manifestations de Maïdan à Kiev, l'occupation de la Crimée, les supporters d'un club de football ukrainien avaient assiégé des pro-russes qui s'était replié dans l'union des syndicats. Enfin, je vous raconte des histoires qui paraissent très anciennes aujourd'hui et dépassées. En tout cas, un incendie s'était déclaré, faisant 41 morts à l'intérieur de l'immeuble. Des martyrs, des nazis, avait déclaré Poutine.
Poutine pour qui Odessa a une réelle importance.
Oui, le duc de Richelieu était, pour le compte du tsar, gouverneur de la Nouvelle-Russie. Et Poutine parle d'une Novo-Russie. Cette Novo-Russie, issue des rêves des tsars, centrée sur la mer Noire, irait de la Géorgie vassalisée, à l'est, aux Balkans, à l'ouest. Il ne faut pas oublier qu'Odessa, port commercial, se trouve sur la route qui va de la Crimée, déjà confisquée, et de son port militaire, Sébastopol, à la Moldavie. Modeste Moldavie, déjà flanquée d'un petit territoire séparatiste russe, la Transnistrie, la Moldavie, pourrait-elle être le dessert de Poutine après l'Ukraine, le plat de résistance étant l'Ukraine, à tous les sens du mot.
Mais la prise d'Odessa déjà provoquerait une large réprobation.
Alors peut-être la menace s'éloigne-t-elle un peu ces jours-ci? Oui, parce que Odessa, c'est la capitale d'un imaginaire très partagé. Si pour les Russes, elle ouvre leur espace vers le sud, elle annonce l'Orient pour les Européens, elle représente le Nord pour les Grecs et les Turcs, et je n'ai pas parlé des Juifs, ils étaient encore 40 000 avant le début de l'invasion. Le rabbin d'Odessa raconte cette blague. Deux Juifs discutent dans la rue, un troisième survient. Peu importe de quoi vous parlez, leur dit-il, mais il faut partir. Les Juifs doivent toujours partir. Ils ont contribué à la création d'un quartier à New York qui s'appelle Little Odessa. Il y a une douzaine de villes américaines qui portent le nom d'Odessa. Marseille est jumelée avec Odessa. Imaginez l'écho que pourrait provoquer dans le monde ce cri. Odessites de tous les pays, unissez-vous.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Et un instant, la Russie annonce réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et Tchernigiv. Est-ce la résistance qui paie? Est-ce un redéploiement qui s'opère et se prépare comme annoncé? En tout cas, voilà cette information de dernière minute que nous donne l'agence France Presse. Mathieu Vidard, La Terre au Carré, quel est le programme?
Bonjour Bruno, nous sommes tous des migrants et depuis très longtemps, c'est ce qu'on va voir avec nos invités aujourd'hui.
À tout de suite Mathieu.
Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Dans la vie, il y a l'original et les copies.
Même pour les médicaments?
Bien sûr. Aujourd'hui, avec les Organon Originals, vous avez droit à 22 médicaments de marque originale qui ne vous coûtent pas un centime de plus.
Mon médicament original? Vraiment? Pas un centime de plus?
Rendez-vous sur organonoriginals.fr ou chez votre médecin.
Médicaments Organon Originals, l'idéal.
Il est 14h. Les dernières informations, Laetitia Gaillard.